Sophie Malibeau.
Pour cette première émission de géopolitique de l'année 2016, nous nous intéressons à la situation en Libye, alors que d'importants changements sont intervenus en toute fin d'année 2015, avec la signature le 17 décembre à Skhirat, au Maroc, d'un accord de paix entre différentes factions libyennes, prévoyant la constitution d'un gouvernement d'union nationale et d'une transition de 2 ans avant la tenue d'élections en Libye. Alors derrière cet accord conclu sous l'égide de l'ONU, se pose une question cruciale. Une nouvelle intervention militaire en Libye est-elle désormais inévitable? Ça se ferait à la demande du nouveau gouvernement en place afin d'endiguer l'avancée de l'organisation de l'État islamique et de contrer le risque d'attaque terroriste lancée par cette organisation en Afrique du Nord et en Europe. Cette nouvelle action visant également, indirectement bien sûr, à empêcher de nouvelles vagues d'émigration clandestine au départ de la Libye. Et donc cette nouvelle action ne risquerait-elle pas d'avoir l'effet inverse? Pour en parler, nous recevons dans ce studio Belir Nabli, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, auteur notamment d'une géopolitique de la Méditerranée, édité par Armand Collin. À ses côtés, notre confrère Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint de MCD Moyen-Orient. Bonjour messieurs.
Bonjour Sophie.
Alors nous serons également en ligne avec une spécialiste de la Libye, Virgilie Colombier, chercheuse à l'Institut européen de Florence. Bonjour Virginie Colombier.
Bonjour à vous.
Et puis en duplex, dans le studio de France Bleu Provence à Aix, l'ambassadeur Marc Pierini, qui a représenté l'Union européenne au Maroc, en Syrie, en Tunisie, avant d'être nommé ambassadeur non résident en Libye, très précisément de 2004 à 2007, et d'occuper le poste ensuite d'ambassadeur de l'UE en Turquie jusqu'en 2011. Marc Pierini, qui dans un livre intitulé « Le prix de la liberté » raconte les coulisses de la négociation qui a permis la libération des infirmières bulgares, on s'en souvient, les infirmières bulgares et le médecin palestinien qui étaient détenus en Libye pour avoir, selon le régime, inoculé le sida à des enfants de Benghazi. C'était une autre époque avant la chute du régime Kadhafi. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Marc Pierini.
Bonjour.
Et je m'adresserai tout d'abord à vous pour vous demander, avant qu'on entre dans le détail de l'accord et dans le contexte de sa conclusion, quel est votre sentiment sur la portée de cet accord, de cet événement? Est-ce que vous parleriez d'un accord historique?
Bien, oui, je parlerai d'un accord historique tout simplement parce que lors de la chute du régime Kadhafi en août 2011, à la suite de l'opération de l'OTAN, tout ceci a laissé la Libye sans solution politique. Des milices, des brigades un peu partout, fortement armées, la disparition de l'État, bien entendu, et puis des conflits tribaux qui ont ressurgi, et puis enfin, évidemment, ces deux pouvoirs à Tobrouk et à Tripoli qui s'opposaient, en plus avec l'État islamique au milieu, à Sirte, qui est de plus en plus fortement implanté. Donc, il était effectivement urgent de trouver une solution. Cette solution a été trouvée il y a quelques jours à Skhirat, et puis elle a été aussitôt, ce qui est assez rare, suivie d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui lui apporte le soutien de la communauté internationale, ce qui n'est pas rien quand on sait à quel point l'Occident et la Russie, par exemple, s'opposent sur la solution en Syrie. Donc, on est là devant un grand espoir, mais c'est un espoir fragile.
Virginie Colombier, est-ce que vous parleriez, vous aussi, d'un accord historique?
Non, je serais un peu plus mesurée. Effectivement, l'accord qui a été signé la semaine dernière est un signal positif dans la mesure où il permet d'avoir mis autour de la table et d'avoir fait s'entendre un certain nombre de groupes importants en Libye, qui rejoint également une demande populaire très forte de sortie de cette situation de crise et d'impasse politique dans laquelle on est maintenant depuis plus d'un an. Mais elle est, à mon avis, très imparfaite. Cet accord a été obtenu sous pression extrêmement forte des pays occidentaux, dans un contexte, comme vous le disiez, où la menace à la fois de Daesh, disons, et la menace migratoire se fait sentir de manière de plus en plus forte en Europe et aussi utilisée politiquement de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier que des groupes importants politiquement et militairement en Libye sont aujourd'hui en dehors de l'accord et refusent de l'accepter. Mmh. Ça, c'est un premier point. Premier point important. Et deuxième point, il ne faut pas oublier aussi que pour que ce gouvernement puisse, lorsqu'il sera formé, puisse effectivement travailler sur le terrain, il faut déjà qu'il puisse s'installer en Libye. Et à l'heure actuelle, les conditions de sécurité dans la capitale Tripoli sont loin d'être réunies pour permettre au gouvernement d'effectivement s'installer sur le territoire libyen.
Mmh. Et à Alors, mon avis, on y reviendra.
C'est une menace importante.
Bien sûr, mais je voudrais demander à Belir Nabli de réagir, parce que je vous voyais réagir en particulier aux propos de Virgilie Colombier sur l'aspect pression internationale. Est-ce que pour vous, ça relativise du coup l'importance de l'accord en tant que tel?
Oui, en effet, je suis plutôt d'accord avec ma collègue, en ce sens où, finalement, derrière l'accord libyen ou interlibyen ou intralibyen, il y a en vérité un accord qui revêt une dimension internationale incontestable, en ce sens où des puissances étrangères, occidentales en particulier, ont perçu leur intérêt dans finalement la résolution du conflit libyen, en ce sens où finalement la Libye aujourd'hui représente en particulier pour les Européens une double menace stratégique, en tout cas perçue comme telle, une menace migratoire à la fois et une menace djihadiste qui serait incarnée par le territoire libyen lui-même et certains ressortissants libyens. À partir de là, cette double perception-là a motivé les puissances étrangères et les puissances occidentales en particulier à accélérer le processus de résolution du conflit libyen en mettant la pression sur les deux protagonistes, deux blocs qui existent, mais deux blocs qui effectivement, du point de vue strictement interne, et sont très hétérogènes. Et de cette hétérogénéité-là, il est difficile de prévoir la viabilité de l'accord, en ce sens où déjà il est contesté par certaines factions. Et par conséquent, c'est la viabilité et la réalité même de cet accord qu'on peut discuter, même si on peut le saluer en même temps, dans la mesure où, encore une fois, il a d'abord été impulsé, voulu par la communauté internationale et des puissances étrangères.
Mmh. Je me tourne vers Mustapha Tossa. Vous pensez, vous, que cet accord, c'est un pari risqué ou c'est plutôt une chance? Vous penchez pour le verre plutôt à moitié plein ou plutôt à moitié vide?
Moi, je pencherai plutôt vers l'hypothèse du verre à moitié plein. Quand vous dites un accord historique, je dirais que c'est un accord historique dans la mesure où il cristallise à un moment donné l'urgence de trouver une solution politique et militaire au cas libyen. Il ne faut pas oublier que ce chaos libyen dure depuis 2011 et que la communauté internationale était dans une situation d'attentisme. On ne sait pas ce qu'elle attendait. Tout le monde faisait le diagnostic que c'est très dangereux ce qui se passe en Libye, que le fait de laisser ces groupes armés prendre possession de portions extrêmement larges et extrêmement importantes du territoire libyen était un danger, non seulement pour la région Maghreb, Nord-Afrique, mais aussi pour la Méditerranée. Et le fait que cet accord soit arrivé à ce moment-là, moi je crois que ça cristallise cette urgence et c'est une prise de conscience internationale extrêmement importante et c'est une dynamique internationale qui est lancée maintenant. On ne peut plus l'arrêter, soit on va jusqu'au bout de la dynamique, à savoir régler le problème sécuritaire de la Libye, soit baisser les bras et laisser Daesh prendre le pouvoir dans la région.
Alors, je voudrais rebondir sur un mot que vous avez employé, Mustapha Tossa. Vous parlez de chaos en Libye. Virginie Colombier, vous êtes un peu perplexe face à cette expression de chaos. Est-ce que, selon vous, ça ne permet pas tout de même de rendre compte de la situation actuelle dans ce pays?
Vu de l'extérieur, il est évident que la manière dont on perçoit la Libye, on peut dire, enfin, le terme chaos paraît approprié. Quand on regarde d'un peu plus près et quand on s'intéresse à la manière dont les choses se sont passées depuis maintenant plus de 4 ans sur le terrain, il y a effectivement une situation de vide institutionnel évident. On n'a aucune autorité ou aucun pouvoir qui n'a été capable depuis 2011 à la fois d'être légitime aux yeux de la population et surtout d'exercer son contrôle et sur le territoire et sur certains groupes et en particulier les groupes armés. Donc cette situation de vide est évidente. Elle a provoqué dans certains lieux, en particulier, on parlait de Sirte tout à l'heure, mais aussi certaines zones du sud par exemple, des situations où en l'absence de pouvoir installer et de capacité de contrôler, des groupes se sont installés, des groupes armés, criminels, djihadistes et autres, ont pris possession du territoire et aussi du contrôle sur les hommes, qui rendent la situation aujourd'hui particulièrement difficile. Mais on peut aussi regarder les choses d'une autre manière. On voit aussi que la dimension gestion locale et comment les situations dans un certain nombre de villes, de régions, ont été gérées par les communautés et les leaders locaux, finalement, est aussi un signal plutôt positif. On a vu aussi au cours de l'année écoulée que dans la zone de tout l'ouest libyen, par exemple, on a eu un certain nombre de conclusions de cessez-le-feu locaux où des leaders locaux et des responsables communautaires ont été capables de se parler, de se mettre d'accord, de résoudre des problèmes et d'assurer la gestion de la vie quotidienne au niveau local. Mm-hmm. Cette situation est devenue de plus en plus difficile juste en l'absence de pouvoir central et maintenant en l'absence de ressources à distribuer. C'est la situation économique et sociale. Et l'absence de capacité de contrôle au niveau national rend toutes ces initiatives locales de plus en plus instables et de plus en plus non durables, en fait. Mais il y avait malgré tout des signaux positifs.
Mmh. Belir Nabli, vous vouliez réagir ?
Oui, justement, parce qu'on est déjà au cœur de l'un des problèmes du conflit libyen, en tout cas dans sa perception et sa représentation. En ce sens où, dans la mesure où on transpose souvent dans notre analyse des relations internationales et de la géopolitique, des modèles qui nous structurent du point de vue intellectuel et politique, ça aboutit souvent à des décalages avec la réalité. Et comme, par exemple, notre culture politique et juridique franco-française est calquée sur le modèle de l'État-nation, dès lors qu'il n'y a pas de pouvoir central, on en conclut assez rapidement qu'il n'y a pas de pouvoir tout court. Or, la société libyenne n'est pas la société française, et ce n'est même pas la société tunisienne, j'aurais envie de dire. C'est une société fondamentalement tribale, ce qui ne signifie pas qu'elle est incapable de s'auto-gérer sur le plan local. Et c'est ce à quoi on assiste. Outre, effectivement, la contestation du pouvoir central et son inexistence effective, il existe une capacité des entités tribales à s'auto-gérer sur des portions déterminée du territoire, une répartition particulière donc du pouvoir politique qu'il ne faut pas ni mépriser ni ignorer. Alors ça ne signifie pas qu'il y a là un modèle.
Je voudrais réagir, Monsieur l'ambassadeur Marc Pierini, un instant parce que je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit sur une certaine capacité des groupes adverses à se parler et éventuellement à passer des deals entre eux. Est-ce que du coup la pression qui a été mise de l'étranger ne risque pas de finalement d'être contre-productive. Est-ce qu'il fallait aller si vite en besogne, monsieur l'ambassadeur?
Alors, deux remarques. D'abord, nous payons ici les 42 ans du pouvoir de Kadhafi. Sous le label Jamahiri, l'état des masses, le désordre légal, on se rappelle de la formule, les congrès populaires, etc., etc., les comités. En fait, Kadhafi avait dominé les conflits tribaux, les avait neutralisés et avait anéanti l'État. Il était le seul à décider des grandes affaires, et notamment de la gestion pétrolière à travers la NOC, la compagnie nationale, et il empochait tous les bénéfices. Donc, il n'y avait plus d'État en Libye au moment où le régime Kadhafi est tombé.
Mais cela
donc,
fait
ce que
ans.
Nous voyons aujourd'hui, c'est une série de brigades, de milices, etc., qui ont pris de pouvoirs locaux et la résurgence, naturellement, de la culture tribale. Alors, ça, c'est très bien, mais la culture tribale, elle ne gère que des territoires extrêmement limités, puisque par définition, les tribus sont ancrées dans des territoires. Alors, je ne dirais pas que c'est notre culture franco-française qui influence le système, c'est la culture des Nations Unies. C'est-à-dire que pour exister au plan international, pour gérer un État, pour récolter des revenus et redistribuer des revenus au niveau national, il faut une structure étatique et c'est ça que nous n'avons pas. Mais c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. Par exemple, en Syrie, on n'a plus vraiment d'État syrien, mais il reste des structures qui fonctionnent, y compris dans des zones contrôlées par les rebelles kurdes. L'État syrien est toujours présent et puis on coexiste. En Libye, vous n'avez pas ça. Vous avez des administrations strictement locales et le reste ne fonctionne pas ou fonctionne de façon extrêmement fragmentée. Et le risque, il est bien là, c'est qu'on revienne à une structure tribale qui ne serait pas du tout adaptée aux réalités du monde moderne. Or, la Libye n'a qu'une seule ressource, c'est le pétrole et le gaz.
Mmh. Moustapha Tossa.
Oui, je comprends et j'entends un petit peu les analyses qu'on fait ici sur la nature tribale et la nature proprement originale de la société libyenne. Mais il ne faut pas oublier que la Libye, depuis un certain temps, non seulement elle est le terrain d'affrontement entre des forces tribales libyennes, mais aussi elle est le théâtre d'affrontement de forces régionales. À partir du moment où le pouvoir central est tombé, à partir du moment où Kadhafi est tombé, la Libye s'est ouverte à toutes les influences possibles et imaginables imaginables, que ce soit les influences régionales ou les influences internationales. Alors, ce qui complique davantage la Libye, c'est pourquoi il faut absolument, la communauté internationale, les médiateurs de l'ONU ou les médiateurs régionaux veulent absolument parvenir à la constitution d'un pouvoir national central, c'est justement pour pouvoir parler au monde d'une seule voix et pour pouvoir demander cette intervention internationale. Moi, je crois que, si vous me permettez, je crois que l'intervention internationale sur la Libye est inévitable. Qu'il y ait une solution politique ou qu'il n'y ait pas. Qu'il y ait une solution politique, ça permet au gouvernement national de la demander de manière légitime aux Nations Unies. Qu'il n'y ait pas de solution politique et ça obligerait la communauté internationale à intervenir, parce que ne pas intervenir, c'est laisser la Libye entière, avec tout ce que ça représente en termes de géostratégie, en termes de pouvoir, en proie à Daesh.
On y reviendra ça, là-dessus, sur l'implication de l'accord, puisqu'il est effectivement peut-être le préalable à une intervention. On reviendra un petit peu plus en détail là-dessus dans la deuxième partie de l'émission. Mais je voudrais qu'on revienne tout d'abord sur les divisions et sur ce qui a forgé ces deux blocs. Parce que finalement, donc, on se retrouve avec ce bloc de l'ouest, donc de Tripoli, cet autre bloc à l'est en Cyrénaïque autour de Tobrouk. Et puis il y a le sud également. Mais tous ceux qui se battent entre ces deux blocs cherchent tout de même une domination nationale. On n'est pas dans un schéma où on chercherait finalement à avoir trois régions autonomes. Vous me dites si je me trompe, Belir Nabli.
Je répondrai un peu dans la continuité de notre échange précédent, à savoir qu'il faut naturellement un État, parce qu'effectivement, la communauté internationale est structurée et demeure structurée autour de l'entité étatique souveraine. Donc, pour que la Libye existe et continue d'exister, il faudra bien un État viable. Ensuite, ce que je dis, moi, c'est que la construction de la Libye, de la future Libye, ne pourrait reproduire finalement la fiction dans laquelle a vécu la Libye de Kadhafi, à savoir une espèce de système qui a tenté de masquer et de neutraliser l'existence sociale et politique des tribus. Donc il faut créer un système d'équilibre entre l'existence d'un État sans qu'il soit vraiment centralisé autour d'une entité qui tenterait de neutraliser la réalité tribale. Bon, à mon avis, on ne pourra pas échapper à cet équilibre-là. De toute façon, ce à quoi on assiste, la structuration et la confrontation à laquelle on assiste, la réalité tribale est au cœur de cette confrontation. Hein. Les tribus se répartissent entre les deux camps, mais avec une nouveauté libyenne, en tout cas post-Kadhafi, c'est l'affirmation d'islamistes à la fois au sein, au moins, de l'un des deux blocs et comme arbitre ou tierce partie dans la confrontation de ces deux blocs, puisqu'il y a en plus l'affirmation à la fois territoriale et militaire de Daesh au sein du territoire libyen.
Oui, ce que vous nous dites, c'est que les islamistes ne sont pas tous du même côté et qu'on n'a pas d'un côté des forces libérales dites laïques et qui souhaitent un peu se présenter comme telles face à un clan homogène islamiste.
Oui, incontestablement, c'est le genre de confrontation ou de présentation binaire qu'on a essayé de nous vendre à l'époque de l'intervention de la coalition internationale en 2011 et qui ne tient pas debout. C'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est plus que de la simplification. Là, on est vraiment dans la fiction pure. Il n'y a pas de laïc ou de responsable libyen qui se présente comme tel. En revanche, effectivement, vous avez des entités qui s'inscrivent dans des mouvances islamistes et qui ne participent pas pour autant à un même combat. C'est-à-dire qu'il y a des conflits entre eux, entre des milices qui se revendiquent comme islamiste. Donc c'est beaucoup plus complexe et ça participe à la difficulté à construire l'État en question.
En fait, moi je dirais, si on veut simplifier, résumer, schématiser, on est en présence en Libye de trois acteurs essentiels. Le premier acteur, c'est celui du Parlement de Tobrouk, qui est un petit peu, qui rassemble un petit peu les nostalgiques de Kadhafi et les libéraux. On a le Parlement de Tripoli qui incarne la mouvance islamiste et on a les milices armées de Daesh qui contrôlent un certain nombre de territoires. Et toute la question est de faire la synthèse de ces trois forces politiques, les obliger les uns aux autres à collaborer pour éliminer le troisième.
On va y revenir plus précisément sur l'impact de cet accord, sur le rôle des acteurs étrangers, les pressions qui s'exercent sur la Libye, avec nos invités Belir Nabli, Mustapha Tossa, Virginie Colombier et Marc Pierini. Une nouvelle intervention militaire en Libye est-elle désormais inévitable et pour quels résultats? Nous tenterons de répondre à ces questions dans la deuxième partie de l'émission, mais pour l'instant, c'est une page d'actualité sur la Radio Mondiale.
Vic, Sophie Malibaud.
Nous poursuivons le débat pour cette première mission de géopolitique de l'année 2016 sur la Libye. Ce sera le dossier de l'année à venir, a récemment déclaré le chef du gouvernement français Manuel Valls. Pourquoi ? Parce que l'organisation de l'État islamique s'y est implantée à 400 km des côtes européennes et que le nouveau gouvernement d'Union nationale censé se mettre en place dans les jours, voire les semaines qui viennent, pourrait appeler à l'aide. On s'acheminerait ainsi vers une nouvelle intervention militaire en Libye, ce qui pose beaucoup de questions. Pour y répondre, dans ce studio, Belir Nabli, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint de MCD Moyen-Orient, une radio sœur de RFI dans le groupe France Média Monde. Au téléphone en Italie, la spécialiste Virginie Colombier de l'Institut européen de Florence et en duplex dans les studios de Radio France à Aix, le diplomate européen Marc Pierini, ancien ambassadeur au Maroc, en Syrie, en Tunisie, en Libye et en Turquie. Alors, nous revenons sur cet accord qui a été signé le 17 décembre dernier à Sriratt au Maroc, signé par une partie seulement des belligérants. Alors, finalement, qui est inclus dans cet accord, qui va devoir rendre des comptes dans ce cadre-là, et qui s'en est auto-exclu, qui n'en est pas ? Je vous pose la question, Virginie Colombier, pour commencer.
Tout d'abord, l'accord qui a été signé la semaine dernière est le signe que les efforts qui ont été menés sous l'égide des Nations Unies au cours de l'année écoulée ont réussi d'une certaine manière à porter des fruits. On a eu d'un côté les principaux représentants du Congrès général de Tripoli qui faisaient partie des négociations qui ont accepté de signer. De la même façon, les représentants du Parlement de Tobrouk ont accepté de signer. Les conseils municipaux de villes importantes comme la ville de Misrata ont également accepté de signer. On a là un signal positif et on a eu l'occasion de constater au cours des dernières semaines qu'un des aspects positifs des négociations onusiennes, c'est que ça a permis en fait de fragmenter les deux grands blocs, bloc Tripoli et bloc Tobrouk, et de faire apparaître les intérêts des différentes communautés, des différentes municipalités de manière plus claire. Et ça a permis à un certain nombre de représentants et de factions de signer cet accord. Ça, c'est un point positif. Le point, en revanche, extrêmement problématique à l'heure actuelle, c'est que vous avez d'un côté le leadership du Congrès général de Tripoli qui s'oppose à l'accord et qui a refusé de le signer, et de la même manière, le leadership du Parlement de Tobrouk qui s'oppose à l'accord et qui a refusé de le signer également. Les deux leaderships des deux parlements concurrents étant aujourd'hui engagés dans un processus de négociation parallèle pour proposer une sorte d'initiative alternative à l'accord qui a été signé la semaine dernière. Donc ça, c'est un point extrêmement important parce que politiquement, les leaders de ces deux parlements concurrents ont un poids. Et le fait qu'ils soient aujourd'hui à l'écart de l'accord qui a été signé va évidemment poser problème. L'autre problème très significatif, c'est que, par exemple, un certain nombre de groupes armés ou de représentants de groupes armés, comme ceux qui tiennent la ville de Tripoli à l'heure actuelle, sont également en dehors de l'accord, s'y opposent très fermement, et leur opposition fait que l'installation même du gouvernement dans la capitale Tripoli à l'heure actuelle est quelque chose qui paraît hors de portée, au moins à court terme. Donc, au moins ces deux principaux points-là sont des problèmes importants pour la viabilité du gouvernement et de l'accord.
Oui, on a l'impression, quand on a lu un petit peu les réactions qui ont accompagné la signature de cet accord, que ce soit au Parlement de Tobrouk ou au Parlement de Tripoli, il y avait des contestations internes. On avait l'impression que c'était beaucoup plus une guerre d'ego que d'options politiques. Pourquoi avez-vous signé avec ces gens-là et pas avec moi ? Et on avait des réflexions et des analyses et des prises d'opposition beaucoup plus pour contester la personne des signataires que l'option de signer un accord. Donc il y a là comme une nécessité pour les deux camps de faire émerger un leadership crédible qui peut parler au nom de cette entité, que ce soit de Tobrouk ou de Tripoli. Alors bien sûr, on est en train de parler d'un accord, on est en train de parler d'une dynamique qui est lancée, celle de former un gouvernement. Il faut un mois, l'ONU a donné un mois pour former ce gouvernement. Les deux entités vont rentrer dans des négociations parce que tout est une question de poste, d'équilibre, de pouvoir entre les deux. Donc on aura une dynamique de négociation sur un mois pour savoir si vraiment le processus onusien a finalement abouti à la formation d'un gouvernement d'union nationale.
Monsieur Marc Pierini, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste de croire qu'on va avoir un nouveau gouvernement prochainement à Tripoli, ou est-ce qu'on ne risque pas d'être dans le cas de figure où ce gouvernement resterait un gouvernement en exil, un petit peu comme il y a eu avec un mouvement de l'opposition syrienne en exil qui était censé être la forme légitime et qui finalement n'a jamais pu mettre les pieds sur le terrain.
Il y a effectivement un risque très fort que les délais très courts qui sont contenus dans l'accord ne soient pas respectés. Donc il y aura une course de vitesse entre les différentes factions, une pression énorme qui va subsister de la communauté internationale. Mais on voit bien que la chute du régime Kadhafi n'a laissé aucune structure de rechange. Donc on est un petit peu dans un vide et les allégeances sont changeantes. Et tout cela, au fond, bénéficie uniquement à Daesh, parce que Daesh ne se préoccupe pas de ces choses-là, il occupe du territoire. Or, Daesh, c'est évidemment le cauchemar ultime pour les puissances occidentales et pour la Russie. Daesh recule en Irak. Daesh a perdu Tikrit, Sinjar, Ramadi, tout récemment. La prochaine bataille, c'est Mossoul. Recule un peu moins, mais recule quand même en Syrie. Il vient de perdre le barrage de Tishrin. La prochaine bataille, c'est Raqqa. Et évidemment, plus l'État islamique recule en Irak et en Syrie, plus il est tenté de s'étendre ailleurs. Alors, il y a le Sinaï en Égypte et il y a évidemment Sirte en Libye, avec toute une stratégie qui est parfaitement lisible et qui est extraordinairement dangereuse, puisqu'elle joue à la fois sur le pétrole, le gaz et les migrants.
Belir Nabli, vous pensez que cette nouvelle fragmentation, cette nouvelle donne en Libye, risque de faire encore plus le jeu de Daesh ?
En fait, ce à quoi on assiste, c'est véritablement de voir les limites d'un accord politique national lorsqu'il est impulsé et voulu d'abord et avant tout de l'étranger ou de l'extérieur. Et c'est le déficit de volontarisme politique libyen qui explique aussi les limites actuelles de l'accord. À l'inverse, ça souligne aussi que cette dynamique politique dont on parle, elle est incontestablement nourrie par un volontarisme international et régional, parce que des grandes puissances de la région ont intérêt à voir la Libye se stabiliser eu égard aux menaces qui se sont ancrées sur son territoire, qu'il s'agisse de la menace djihadiste ou de la menace migratoire, en tout cas perçue comme telle par les Européens en particulier. Tant que les acteurs politiques libyens n'auront pas perçu, eux, l'intérêt à trouver un accord, on ne trouvera pas d'accord viable à terme. Autrement dit, je pense à titre personnel qu'il faudrait que finalement les deux parties qu'on nous présente comme étant les principales entités politiques représentatives de l'actuel rapport de force libyen puissent au moins percevoir l'État islamique comme une menace pour leur propre leadership et la répartition du pouvoir dans le futur État libyen. C'est là où finalement tout pourrait se jouer, parce que de l'extérieur, les voisins maghrébins, égyptiens, sahéliens ont bien perçu la menace djihadiste et donc l'intérêt de trouver une solution en Libye. Les Européens ont bien perçu la menace djihadiste qui s'était ancrée sur le territoire libyen. Mais on a l'impression que les parties libyennes, elles, n'ont pas encore mesuré la menace.
Moustapha Tossa, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, et je rajouterai simplement un élément de réflexion, c'est que les acteurs libyens, tels qu'on les voit maintenant, ne sont pas totalement indépendants et souverains de leurs propres décisions. Il ne faut pas oublier que le Parlement de Tobrouk a des comptes à rendre à ses parrains régionaux, notamment le Qatar, la Turquie, probablement l'Algérie.
Et
l'Égypte a une influence sur Tobrouk. Donc, on est là, qu'on le veuille ou non, dans un jeu de croisement de fer des puissances régionales sur le théâtre libyen. Et c'est pour ça que moi, je reste un petit peu pessimiste quand on met toute la responsabilité sur uniquement les leaders tribaux de la Libye. La communauté internationale, les acteurs régionaux doivent aussi avoir leur mot à dire. Et c'est pourquoi je comprends la durée d'un mois. Un mois pour former un gouvernement, c'est un mois aussi donné à l'ONU, donné aux puissances occidentales pour faire pression sur ces puissances régionales et les obliger à donner des ordres, entre guillemets, à leurs pions libyens pour les pousser à signer des accords.
Alors, manifestement, il y en a qui sont pressés. Hein. Alors, je ne citerai que les Italiens pour commencer, puisque vous êtes en Italie, Virginie Colombier. Vous avez pu voir la venue de Fayez El-Sarraj, donc l'homme qui est chargé de mettre en place ce gouvernement d'union nationale. Il est venu, il a rencontré Matteo Renzi en début de semaine. Et là, il est très évident que les Italiens poussent un peu à la roue, et parce qu'ils sont aussi les plus proches des côtes libyennes et menacées très directement, non seulement par Daesh, mais aussi par d'éventuels départs de migrants des côtes libyennes.
Oui, il est évident que l'Italie, depuis maintenant plusieurs mois, mais ils ne sont pas les seuls, ont un rôle moteur en fait dans cette pression et dans cette faire monter le niveau d'alerte, disons, pour ne pas employer le niveau de menace. C'est aussi quelque chose, il ne faut pas le nier, qui est utilisé à des fins politiques internes. Mais le fait est que la menace terroriste et la pression migratoire sont deux éléments qui, aujourd'hui, sont des éléments centraux dans la politique des Occidentaux. Ça, c'est évident. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce qu'on parle beaucoup d'intervention des Occidentaux, la nécessité d'une intervention des Occidentaux en Libye du fait de la dégradation sécuritaire, personne ne pose vraiment la question de savoir, on parle beaucoup de Daesh et de l'expansion de Daesh en Libye aujourd'hui. Le groupe Daesh ou les combattants qui se revendiquent de Daesh, qui sont-ils? On parle de Sirte. On dit Sirte est devenu en fait le nouveau centre, attire même aujourd'hui des combattants qui fuient les bombardements en Syrie, en Irak. La ville de Sirte, qu'est-ce qui s'y passe? C'est une illustration parfaite du fait que, un, cette ville qui était l'ancien fief, la ville phare de Kadhafi, qui a été totalement marginalisée après 2011, parce qu'elle était perçue comme la ville qui incarnait justement l'ancien régime. Les combattants étrangers qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à Sirte et qui exercent leur contrôle sur la ville, ont pu, entre guillemets, s'allier ou recevoir le soutien actif ou passif de communautés et de familles locales, parce que pour ces familles et ces communautés locales, ils sont devenus à un certain moment le seul canal, le seul outil pour faire entendre leur voix sur la scène politique et même sur la scène sociale, entre guillemets, dont ils ont été complètement exclus depuis 2011. Alors, les modalités d'intervention qu'on imagine aujourd'hui et une réponse qui serait une réponse quasiment exclusivement militaire en disant il faut aujourd'hui intervenir militairement contre Daesh parce que c'est la menace principale. Il faut aussi qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire et quel peut être l'effet d'une riposte purement militaire. Et quand on prend simplement l'exemple de Sirte, je crains vraiment qu'une réponse uniquement militaire qui ne se pose pas vraiment la question de savoir qui aujourd'hui combat directement ou indirectement avec Daesh et pourquoi, si on ne prend pas ça en compte, on risque finalement d'avoir des résultats tout à fait contraires à ce qu'on prétend chercher.
Mmh. Et en début de semaine, on avait l'Italie qui se disait prête, je cite, à répondre rapidement et dans le cadre nécessaire de la légalité internationale aux éventuelles demandes d'assistance de la Libye. Donc c'est tout à fait explicite.
La résolution des Nations Unies qui a été votée cette semaine, quand on lit le texte, prépare très explicitement et très clairement une éventuelle demande du gouvernement de l'Union libyen d'intervenir. Le cadre légal est posé en fait pour une éventuelle intervention.
Je rajouterai simplement un élément important qui motive et qui justifie cette implication et cette montée en première ligne de l'Italie. Il n'y a pas que le terrorisme, il n'y a pas que l'immigration clandestine, il y a aussi les intérêts du pétrole et du gaz. Les investissements italiens sur le territoire libyen sont immenses, sont énormes. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été menacés, mais le gouvernement italien semble anticiper. Il veut être aux premières loges pour justement défendre ses intérêts sur le territoire libyen.
Je voudrais dire quelque chose à ce stade.
Pardon, M. Pierini,
si je peux. Je pense que l'alliance sur place à Sirte entre l'État islamique et des tribus locales, ça n'a rien de nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé dans la partie sunnite de l'Irak. C'est comme ça que l'armée irakienne a fui très rapidement Mossoul, lorsque Mossoul est tombé aux mains de l'État islamique et que des centaines de millions de dollars et des armements colossaux sont tombés dans les mains de l'État islamique. Mmh. Donc ça, c'est une stratégie qui n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau ici, c'est que l'État islamique n'a aucun intérêt à voir l'accord qui a été passé à Sirirat et qui a fait l'objet ensuite d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, de voir cet accord fonctionner. Parce que l'État islamique, c'est un État sans les attributs formels de l'État, mais qui a besoin de moyens financiers et qui a besoin de territoires pour s'étendre. Donc, de ce point de vue-là, Sirte, qui ne représente rien en termes économiques, mais qui est implanté au milieu exactement de la richesse libyenne, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en s'étendant de quelques centaines de kilomètres à l'est, l'État islamique peut prendre possession des terminaux pétroliers de Ras Lanouf et de Sidra. En s'étendant à l'ouest, en contournant Tripoli par le sud, il peut prendre le terminal gazier de Mellita, c'est-à-dire le départ du seul gazoduc entre la Libye et l'Italie. Mmh. D'où, comme le disait Mustapha Tosi, l'importance de cette affaire pour l'Italie. Plus, bien entendu, autour de Tripoli, Sabratha, qui peut faire le même effet dévastateur du point de vue de la propagande que Palmyre ne l'a fait. Mmh. Alors, quand on regarde les intérêts étrangers dans le gaz et le pétrole, c'est l'Italie, bien sûr, mais c'est aussi les États-Unis, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne, c'est la France. Et c'est la Russie, parce que Gazprom est aussi en Libye. Donc, ça fait beaucoup.
Oui, Belir Nabli, vous voulez prendre la parole peut-être sur cette importance stratégique de Sirte, située pratiquement presque à équidistance entre Tripoli à l'ouest et Tobrouk à l'est.
Oui, et sur les données internes et les données internationales dans la résolution du problème libyen. Et encore une fois, je pense véritablement que la solution est d'ordre interne et non pas international ou même régional. Même s'il y a des enjeux naturellement liés à l'environnement du pays. Parce que tout simplement, et là l'analogie avec la situation syro-irakienne est intéressante, parce que tant qu'on marginalisera une portion de la communauté nationale, eh bien vous aurez là un vide à combler d'un point de vue politique, voire militaire. Ce à quoi on a assisté finalement au Moyen-Orient, c'est finalement la marginalisation des sunnites irakiens et syriens, dans deux contextes un peu différents malgré tout, mais cette marginalisation a nourri finalement une adhésion à l'offre politique représentée par Daesh.
Oui, mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'en Libye, justement, il n'y a pas ce problème de confessionnalisation du conflit, puisqu'on a une grande majorité de sunnites.
Oui, mais vous avez une tribu, en particulier Kadhafi, dont est issu finalement Kadhafi, qui était ancré dans la région de Sirte, qui s'est retrouvée marginalisée avec la chute de Kadhafi, parce qu'elle a été considérée comme attaché historiquement à l'ancien régime. Et cette marginalisation-là a nourri une frustration et finalement une possible adhésion, pas idéologique, hein. Il n'y a pas beaucoup d'idéologie en ce sens, mais plutôt une acceptation de l'offre à la fois politique et de protection militaire que proposaient finalement les forces djihadistes de fait. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de marginalisation de portions de la communauté nationale, on aura toujours une fragilité interne. Et donc, il y a là l'enjeu véritable de répartition du pouvoir politique avec l'adhésion de l'ensemble des segments du corps social et, en même temps, l'enjeu effectivement de la meilleure répartition des richesses libyennes, parce que la Libye était un pays riche et peut très vite le redevenir. Rappelons que si le peuple de Benghazi, pour reprendre une expression qui est devenue célèbre, s'est soulevé, c'est aussi parce qu'il avait été marginalisé par le pouvoir de Kadhafi. Il convient aujourd'hui de ne pas reproduire le même schéma en marginalisant une autre communauté et en l'excluant à la fois du jeu politique et de la répartition des richesses.
Moustapha Tessa.
Oui, moi je voulais revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur, quand il a fait l'analogie et la comparaison entre l'exemple et l'expérience irakienne et celle de la Libye. Et évidemment, ce qui a permis l'installation rapide un petit peu de Daesh en Libye, c'est bien sûr l'absence de pouvoir central, c'est bien sûr les divisions géographiques et régionales, mais aussi c'est bien sûr la reconversion d'un certain nombre de personnalités sécuritaires de l'ancien régime libyen qui ont trouvé Daesh comme une manière de continuer à faire de la résistance, entre guillemets, et de régler leur compte à toute cette nouvelle autorité qui est en train de naître après la chute de Kadhafi. Donc on assiste là à vraiment une espèce de la nécessité d'inclure tous les partenaires politiques et sécuritaires, qu'ils soient même de l'ancien régime, dans une nouvelle forme de gouvernement national.
Je voudrais juste demander en un dernier mot très bref à Virginie Colombier, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de faire entrer dans l'accord des partis des belligérants qui pour l'instant l'ont rejeté ?
C'est ce que les Nations Unies, le représentant spécial, essayent de faire. Il y a des messages très clairs qui ont été envoyés à tout le monde disant la porte n'est pas fermée et on est prêt à accepter autour de la table, même ceux qui jusqu'à présent ont refusé. Donc le message a été envoyé. J'imagine qu'il y a beaucoup de négociations et de choses qui sont en train de se dérouler en ce moment. Il faut voir, ce n'est pas totalement à exclure, même si je pense que les pressions très fortes et la nécessité de conclure ou d'arriver à un accord dans des délais très brefs risquent de jouer contre ce processus-là. Mais la seule option serait effectivement une inclusivité plus grande.
Merci. L'émission géopolitique se termine pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Marie-France Chatin pour un autre débat. Merci à nos invités, Belir Nabli, Moustapha Tossa, Virginie Colombier et Marc Pierini. Merci aussi aux techniciens de France Bleu Provence pour avoir mis nos studios en relation. Nous vous souhaitons à tous un bon début d'année avec une mention spéciale pour la réalisatrice de géopolitique, Nathalie Laporte. Porte et Véronique Durand pour son assistance dans la préparation de cette émission.